Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, bonsoir, c'est Willy Sagnol. C'est parti pour Ici, c'est Willy jusqu'à 20h sur RMC avec Franck Leboeuf, Louis Amar, François Pinet et Laure Le Pailleur, bien sûr. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut Willy.
Salut tout le monde.
Moi, je demandais à Laure si elle n'était pas un peu tendue.
Mais elle a l'air vraiment sereine.
Sérénité. Comme les filles en conférence de presse, on les a senties beaucoup plus sereines, beaucoup plus libérées.
Tu crois qu'elles vont passer ou faire laminer?
Bah, j'ai espoir en tout cas.
T'es sûr qu'il y a vraiment. Alors, parce que d'un côté, alors, je sais pas, t'appelles ça de la sérénité, je sais pas. Côté américain, j'ai trouvé ça, mais
arrogant.
Non.
À
grosse confiance. Une grosse confiance.
Américaine.
Voilà. Donc, puisque les deux équipes sont persuadées de gagner, on devrait voir un bon match, non?
Bah, je l'espère en tout cas.
Parce qu'on en a pas vu encore.
Oh, tu veux dire de l'équipe de France?
De l'équipe de France,
on en a pas vu encore.
Mais sinon, on a vu des beaux.
Ah bah non, mais il y a que l'équipe de France qui nous intéresse. Enfin, moi, il y a que l'équipe de France qui m'intéresse.
Ah, j'ai vu Norvège, Angleterre. Je peux dire que les Anglaises.
Oui.
Attention aux Anglaises. Et en plus, elles ont eu un parcours plutôt aisé, on va dire, depuis le début mondial. Elles sont ici en demi-finale et
les Paris bronze et compagnie. Je pense que c'est très très bon.
Bon, allez Louis, on va en parler largement de ce quart de finale qui devrait propulser nos bleus.
On l'espère. Nos équipes de France à la une ce soir. Willy, on est donc à moins de 3 heures de France-États-Unis, quart de finale de la Coupe du Monde. On sera avec des supporters des Bleus dans quelques instants. Et puis après 19h, les espoirs éliminés, laminés hier soir en demi-finale de l'Euro par l'Espagne. Mais malgré tout, qualifié pour les JO de Tokyo, peut-on parler de tournoi réussi? Au programme également, la dernière étape du Dugat Tour des clubs. Ce soir, c'est le PSG, c'est à 18h25. La CAN et l'Algérie dans le carré VIP et le Focus Ligue 1 que doit faire Lyon avec Anthony Lopez. Mais d'abord donc, le grand défi des Bleus ES, opposé ce soir à la meilleure équipe du monde, les États-Unis, peut-être un nouveau grand exploit pour le foot français.
N'ayez jamais peur.
Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui?
Et le but! Et le but!
Oui, Michel!
Aucune chance! Mais aucune chance!
Je pense que c'est votre année.
Premier poteau, but de Zidane!
Alors, où on réagit? Et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber?
Où est Girona?
Oui, mon petit bonhomme, bravo!
Et donc, c'est maintenant que vous devez gagner.
Second poteau, Pavard!
Alors je compte sur vous.
La Marseillaise pour accompagner ces moments de gloire de notre foot, Willy, évidemment, ça rentrerait dans ce panthéon-là, hein, si on gagnait ce soir face aux États-Unis.
Oui, et puis on a été gâtés l'été dernier par les garçons et on veut voir la même chose ce soir. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. On ne peut pas se permettre de s'arrêter en quart de finale. Non, Laure?
Bah oui, ça serait forcément. Une déception maintenant.
Une déception.
Ça serait une déception. Mais moi, j'essaie. Non, mais je veux relativiser par rapport aussi à l'adversaire. On sait, les États-Unis, première nation mondiale, le plus gros palmarès du football féminin. Quand on regarde aussi le nombre de confrontations entre la France et les États-Unis, bah clairement la balance elle penche du côté des Américaines. Donc pour moi, je vois plutôt justement si la France gagne ce soir, moi je vois plutôt aussi un exploit. Un exploit parce que les Américaines aussi n'ont jamais perdu en quart de finale d'un mondial et se sont toujours hissées dans le dernier carré. Donc a priori sur le papier, un déséquilibre entre les deux équipes, mais on a un petit peu déçu quand même de cette équipe de France depuis ce début de mondial. Et j'ai l'impression que ce match, ça va être comme un déclic. Je les sens beaucoup plus sereines et j'ai l'impression que le fait que la pression se soit si un peu inversée, elles abordent ce match en tant qu'outsider. Et je pense que ça va se retranscrire sur le terrain. Je les sens, ça se voit même dans les conférences de presse. J'ai même trouvé Corinne Diacre beaucoup plus détendue. Il y a des joueuses, Amandine Henry qui...
Ah bon? Tu l'as trouvé plus détendue?
Oui, je trouve que je l'ai trouvé beaucoup plus détendue.
C'était à cause de la canicule.
Non, mais elle a raison, Laure. Elle a raison, c'est vrai que Corinne Diacre est plus détendue. Pourquoi? Parce qu'elle sait que, sincèrement, si elle passe contre les États-Unis, c'est un exploit. Parce que l'équipe de France n'a jamais battu les États-Unis en compétition, elle l'a battu simplement en match amical
en janvier dernier.
T'as raison, et surtout c'est la dernière défaite en fait des États-Unis. Ouais. Ça
en 41 matchs.
3-1, c'est ça.
C'est ça, 3 au mois de janvier dernier. Ouais.
Alors faut savoir qu'il y avait que, je crois, sur l'équipe type qui va avoir peut-être ce soir 4 ou 5 joueuses.
Quelques cadres quand même qui jouaient, mais il manquait quand même beaucoup de joueuses. Et il y a des joueuses aussi qui ont été repositionnées.
Non, mais sincèrement, c'est un exploit. Et pourquoi Karine Diacre est détendue? C'est qu'elle se dit, j'ai pas besoin de motiver mon équipe. Si elles sont pas motivées pour un match contre les États-Unis en quart de finale d'une Coupe du Monde, c'est qu'il faut arrêter le football. Donc, l'exploit, il est au bord, là. C'est vrai que ce sera un exploit parce que les États-Unis est l'équipe tenante du titre et que on a vu les matchs, on a vu un rouleau compresseur physique, peut-être pas technique, peut-être pas si tactique que ça, mais physique. On a vu des monstres. Si les filles, les américaines, sont motivées et physiquement prêtes, parce qu'elles ont moins de repos que les françaises, ça peut être une catastrophe.
Mais les Français sont joués de la prolongation.
Ouais. Ouais, sauf que la fédération et Noël Le Graët a dit finale. Minimum. Donc il a mis la pression.
Mais bien évidemment,
et la
quand on organise cette.
Donc même si effectivement le parcours, il faut que ça rentre en compte.
Oui.
Si tu sors après un début de mondial, franchement compliqué pour l'équipe de France. Il restera quand même un goût amer dans la
si tu sors, mais bien sûr que c'est un échec.
Ouais.
Mais c'est un échec, et je dirais que
tu
même c'est un échec
contre
cuisant.
La meilleure équipe du monde,
c'est un échec cuisant. Mais... Pourquoi? Parce qu'il faut reprenons les choses. Tu as en 2011, tu fais demi-finale.
Demi-finale, bah contre les Américains, on perd.
Voilà. Tu en sais,
je sais parce que j'ai joué ce match-là. Donc.
Mais c'est pour ça que j'aime bien en reparler. Tu vois, on me reparle toujours de 2006.
Il m'a même dit, mais c'est pour ça qu'elle a perdu. Il m'a dit tout à l'heure.
C'est pas faux. Il y a une erreur de marquage sur le deuxième but.
Non, mais c'est. Non, mais c'est.
Honnêteté,
t'as pensé que j'avais dit ça, mais c'est quand t'étais en train de faire le poirier dans le studio.
Mais t'as pas bien entendu ce que j'ai dit. Voilà. Yoga.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est voilà. 2011, on fait une demi-finale. C'est un peu le déclic. C'est un peu l'ouverture au grand public du foot féminin. Et derrière, et pour l'avoir vécu, il faut quand même se dire qu'il y a eu, alors on n'est pas là pour les compter, mais il y a quand même eu énormément de millions de dépensés à travers des programmes, notamment le foot des princesses. Mm-hmm. Des choses qui ont, de toute façon c'était génial, il fallait le faire, j'ai rien contre ça, mais en 2011 tu pars, je dirais, aujourd'hui t'es en 2019, t'as quasiment deux fois plus de licenciés, tu ne peux pas avoir des résultats moindres que ce que tu faisais à un moment donné où il y avait moins d'argent, moins de structure, moins de joueuses.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais le tableau, aussi. Oui, mais le tableau aussi, il est pas le même forcément. Voilà. Si tu perds un quart de finale contre une équipe qui potentiellement est moins bien classée que toi aussi au classement FIFA, je pense que là, t'aurais aucune indulgence.
Je pense qu'il faut savoir traiter les filles comme on traite les garçons et de se dire, soit l'adversaire.
Quel que soit l'adversaire. C'est là la problématique, c'est qu'on regarde pas un match, on se dit, elles perdent en quart de finale, c'est dégueulasse. Non, si elles tapent quatre fois sur le poteau, qu'elles perdent au penalty, tu peux pas dire, ouais. Ah non, mais c'est un échec cuisant. Ben non, le football t'amène à avoir à un moment donné un peu de retrait, de recul, où tu dis, elles auraient dû passer, elles sont pas passées, elles ont quand même pas eu de bol. On peut pas leur taper sur la gueule.
Anthony Reich nous appelle aux abords du Parc des Princes, envoyé spécial RMC Sport au plus près des Bleus depuis le début de ce mondial. Bonsoir Anthony.
Salut Louis, salut à tous.
Tu vas nous parler des Américaines dans un instant, mais d'abord tu as des infos, les dernières infos sur l'équipe de France, Anthony.
Oui, on vient d'avoir justement, grâce à nos informations, la composition du 11 de départ qui va débuter ce soir face aux États-Unis. En fait, Corinne Diacre a décidé de reconduire le 11 qui était aligné face à la Norvège, c'est-à-dire Sarah Boady dans les buts de droite à gauche au niveau de la défense, Marion Thauran, Gridje Mbogbati, Wendy Renard et Amel Majri. Dans l'entrejeu, la capitaine évidemment Amandine Henry accompagnée d'Élise Bussaglia, Gaëtan Tiné qui reste donc à son poste au niveau de meneur de jeu, et puis sur l'aile gauche Eugénie Le Sommer, dans l'axe Valérie Gauvin et à droite Kadi Diatou Diani.
Excellente info, merci beaucoup Anthony. On débat de cette compo dans un instant. D'abord, rappelle-nous également pourquoi les Américaines nous font peur. François a commencé tout à l'heure à égrener des chiffres, une seule défaite en 42 matchs, mais il y a d'autres raisons de les craindre, ces Américaines.
On va essayer de trouver peut-être quelques points positifs, mais c'est vrai que quand on regarde l'équipe des États-Unis, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux au monde depuis pas mal d'années. Triple championne du monde, numéro un mondial depuis aussi pas mal d'années. 4 titres olympiques. Elles sont toujours programmées pour aller au bout des compétitions. Et il faut savoir que quand même, cette équipe-là, à chaque fois, part en camp d'entraînement pendant plusieurs mois. Donc quand l'équipe de France, justement, les a battues en janvier dernier, derrière, elle commençait cette grosse préparation, puisque les joueuses américaines sont à la disposition de leur fédération, et donc elles étaient en dehors de leur club, et c'est comme ça qu'elles arrivent à réussir et à avoir tous ces titres dans les grandes compétitions internationales. Et puis surtout, l'équipe des États-Unis, c'est aussi une ribambelle de grandes joueuses. On peut citer dans l'histoire des États-Unis Abby Wambach, près de 200 buts avec la sélection, et puis dans les joueuses actuelles, comment ne pas citer Alex Morgan, l'attaquante superstar, la joueuse la mieux pays au monde qui frôle déjà les 110 buts. Elle est à 106 buts sous le maillot national, 5 buts dans cette Coupe du Monde. Megan Rapinoe aussi, un talent incroyable, même si elle est plus en fin de carrière avec ses 33 ans passés par l'Olympique Lyonnais, notamment dans la saison 2013-2014, et qui fait un début de Coupe du Monde exceptionnel. Et puis l'expérimenté Carly Lloyd, évidemment, qui n'a plus le lustre d'antan, et on se rappelle de cette finale incroyable lors du Mondial 2015 qu'elle avait survolée avec un but notamment quasiment du milieu de terrain. Elle a été élue meilleure joueuse du monde par le passé. Toutes ces choses-là font que l'équipe des États-Unis paraît presque imbattable, mais il y a des failles, et notamment côté gauche, au niveau du couloir gauche, avec Crystal Dunn qui peut laisser des espaces aux attaquantes françaises.
Dis-moi, si tu parles de légende, tu dois nommer en premier Mia Hamm.
Ah oui.
T'es obligé. Oui, Mia Hamm, l'attaquante des années 90, effectivement. Deuxième meilleure buteuse de l'histoire de la sélection.
Magnifique.
Merci beaucoup Anthony Reich en direct du Parc des Princes. On se retrouve évidemment tout au long de cette soirée sur RMC. On vous rappelle, dès 20h, intégrale Coupe du Monde avec Jean-Christophe Drouet, le match en intégralité à 21h. On a donc la compo de cette équipe de France, la même que face à la Norvège. Valérie Gauvin reste donc en pointe, Eugénie Le Sommer toujours côté gauche. Laure, est-ce que cette compo, elle te convainc?
Déjà, je pense que c'était nécessaire de repasser en 4-2-3-1 face aux Américaines. Il fallait densifier le milieu de terrain, donc c'est important. Faire confiance, même si depuis ce début de mondial elle donne pas totale satisfaction, Gaëtan Tinet. Je pense que c'est important dans ce genre de match de mettre aussi des joueuses d'expérience. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu...
Mais elle a fait une bonne rentrée contre le Brésil.
Ouais,
elle a amené du dynamisme qui nous manquait.
Un petit peu plus de liant. Moi, ce qui juste me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de complémentarité avec Valérie Gauvin dans l'axe. C'est plutôt ça. On a l'impression qu'elle lise pas le même football. Valérie Gauvin est toujours un peu à contretemps dans les appels. Voilà, j'aurais aimé en fait voir cette complémentarité Eugénie Le Sommer, Gaëtan Tinet, parce que je pense qu'il y avait matière, et que peut-être dans cet axe de cette défense, une intelligence dans les déplacements de Eugénie Le Sommer aurait été intéressante.
Et
je voulais parler de la petite Gauvin. Elle a un profil très très clair. C'est
point d'appui.
C'est celle qui va faire les courses dans la profondeur. D'avoir une relation technique avec ce genre de joueuse, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le ballon lui brûle un peu les pieds, mais elle se bat, elle s'arrache.
Et je l'ai marqué deux fois.
Alors, toi, tu parles, tu aurais voulu voir peut-être une association Tiné.
Après, c'est dur de le faire maintenant.
Moi, j'aurais peut-être préféré une association Le Sommer.
Gauvin.
Non, la petite Diani, ouais.
T'aurais joué à deux attaquants.
Oui.
Mais est-ce que Diani est pas plus performante sur un côté depuis le début?
Diani, c'est une dynamiteuse,
oui,
de défense. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup dans le dribble, elle est beaucoup dans la percussion, elle est beaucoup dans la provocation. Quand elle, ouais, est sur un côté, je la trouve loin de la cage adverse.
Elle a beaucoup plus de repères. En fait, moi, pour l'avoir énormément
côtoyée. Non, mais bien sûr qu'elle a plus de repères.
Elle a vraiment ses repères sur ce côté droit. Et même quand elle a joué à deux attaquantes, on voit ses appels, ils vont forcément tout le temps vers le côté droit pour aller centrer.
Elle avait marqué deux buts contre les États-Unis.
En pointe.
Ça, c'est pas très grave. Parce que justement, si elle va sur le côté droit, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans le dos de l'arrière gauche qui laisse beaucoup d'espace, et là après elle peut mettre des centres. On l'a vu, c'est comme le deuxième but face aux Brésiliennes. Moi je pense que Franck nous parlait tout à l'heure, nous dit si elle tire 4 fois sur les poteaux, on pourra pas parler d'échec. Moi je suis désolé, mais si on enlève les coups de pied arrêtés, on doit être à quoi en 4 matchs? 6 occasions franches?
Oui, certainement.
Donc tu penses qu'on va tirer 4 fois sur les poteaux dans un match?
Ah, mais c'est surtout en termes d'efficacité, en termes de nombre de tirs cadrés, ça a été compliqué.
Il peut y avoir des miracles parfois ou des surprises, mais il y a une chose, c'est que depuis le début de la Coupe du Monde, offensivement, ce qu'on propose, c'est proche du néant. On a pris l'avantage parfois sur nos adversaires parce qu'on avait plus de talent. Mais en termes d'animation offensive, moi je trouve que ça ne fonctionne pas avec cette petite Gauvin, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de relation technique plein axe.
Mais Corinne a essayé autre chose contre le Brésil où elle a fait rentrer ACI à la place de Gaëtan Tinet, donc on était à vraiment 4 attaquantes.
Oui, mais tu gardes Gauvin.
Oui, mais
dans le profil.
Oui, mais bon, on est dans le même profil. Enfin, moi, c'est le même problématique avec Didier Deschamps et avec Olivier Giroud. Un point de fixation dans l'axe. Ce qu'elle fait, Nathalie, c'est ça?
Valérie.
C'est Valérie, Nathalie, c'est les années 38.
Franck, je t'arrête tout de suite. Oui, il y a Giroud. On pourrait dire ça pourrait être un peu le Gauvin des filles ou Giroud c'est la Gauvin des garçons, mais autour il y a pas de Mbappé, il y a pas de Griezmann en équipe de France.
Bah, mis à part Diani quand même. Diani.
Et normalement,
Diani, on peut dire c'est comme Mbappé. Et si tu la mets trop loin de la cage adverse, et ben à un moment donné, c'est t'as pas cette.
C'est une joueuse aussi qui a besoin d'espace. Et quand on a vu quand même qu'elle face à des défenses plutôt resserrées et positionnées derrière, elle a été quand même plus en difficulté. Et je pense que la clé quand même de ce match, parce que je reviendrai quand même au match de janvier, même si face aux États-Unis, même si l'équipe était un peu différente. Moi, je l'avais commenté ce match et j'étais au stade. Et c'est peut-être pour moi la prestation la plus aboutie sous l'ère Diacre. Alors, il y avait Cascarino à droite, il y avait Diani devant et il y avait le Sommer à gauche. Parce que j'avais trouvé surtout une équipe qui avait été cohérente collectivement. Et depuis le début, j'ai l'impression que parfois, il y a quand même... des erreurs dans le cadrage, on a l'impression que des fois ça vient un temps en arrière, on est tout le temps un petit peu en retard. Et là où j'avais été très impressionnée, c'est que collectivement les dépassements ils avaient été hyper coordonnés et que derrière ça avait été facile dans l'exploitation en fait du ballon. Et c'est pas le cas, je les trouve parfois à la récupération du ballon un peu désorganisés et ce qui leur permet pas de se projeter vers l'avant.
On va demander à Philippe ce qu'il en pense. Philippe qui nous appelle au 32-16 et qui est avec nous dans Ici c'est Willy. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Salut Philippe.
Alors déjà, en préalable, je veux dire, j'étais pas converti au foot féminin et grâce à cette Coupe du Monde, je trouve, j'ai pas regardé tous les matchs, mais j'ai trouvé qu'on avait un spectacle de qualité dans l'ensemble et c'est bien. Au moins, on découvre des choses nouvelles.
Bon, Philippe, ça, Philippe, pour dire ça, il y a ta femme qui est juste derrière toi ou quoi?
Pourquoi? Non, elle déteste ce sport. Oh, mais...
Non, je plaisantais, bien sûr.
Non, mais c'est bien, franchement. Voilà.
Mais non, mais il y a de l'engouement, on sent qu'il y a un vrai engouement.
France, il va falloir compter quand même, il y a une grosse différence de niveau, je trouve, avec l'équipe des États-Unis. Après, comme c'est un match de foot, c'est un quart de finale. Oui, c'est un quart.
C'est ça.
Et donc sur un match où évidemment tout peut arriver, tout ce qui est pas vraiment à fortiori du football pur, l'environnement, la chaleur, l'envie, le mental, ça peut sauver l'équipe de France.
Le public aussi.
Oui,
attention, il y aura beaucoup d'Américains.
C'est le public.
Oui, il y a 10 000 Américains qui viennent supporter leur équipe. Mais moi, je reviens sur le problème Gaëtan Tiné, parce que Gaëtan Tiné sera en pleine bourse, ce sera un peu le Griezmann, puisqu'on parlait de Gauvin à côté qui pourrait tourner. Gaëtan Tiné pourrait être, bon, on va arrêter de faire les comparatifs, mais c'est vrai, ça peut être le Griezmann. Moi, ce que j'ai aimé contre le Brésil, c'est que Corinne Diacre a essayé de faire autre chose. Le problème, c'est que Viviane
n'a pas été
au niveau. Et donc, elle revient, elle est obligée. Ou alors, tu mets Cascarino, essaies autre chose.
Le changement qui aurait pu être fait, c'est sur le Sommer aussi, qui est quand même normalement censé être une joueuse, l'une des meilleures buteuses de la sélection.
C'est un peu décevant,
celle qu'on doit mettre dans les meilleures conditions. Là, on a l'impression que sur son côté gauche, même si Corinne Diacre ne veut absolument pas la mettre dans l'axe, ça n'a pas fonctionné depuis le début de la compétition. Alors, peut-être parce qu'elle est moins en forme, peut-être qu'elle est un peu fatiguée.
Moi, je mettrais le Sommer juste derrière Gauvin.
Normalement, alors, plus près de la surface, ça peut quand même permettre
à Gauvin de faire le plus côté efficace. Gauche, il n'a pas changé parce que du côté de l'Olympique lyonnais, Amel Majri et Eugénie Le Sommer, elles jouent quotidiennement ensemble de cette façon-là. Donc, je pense qu'elle reste dans ses convictions, dans ses certitudes par rapport à ça. Après, il est vrai, et Corinne Diacre l'a dit à juste titre, elle a dit que Eugénie Le Sommer n'était pas à 100% depuis ce début mondial. Elle reste essentielle, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait quand même davantage de sa part, mais c'est une joueuse quand même qui est hyper importante dans ce dispositif.
Franck, je voudrais quand même parler de ce choix tactique. Voilà, de jouer soit en 4-4-2, soit en 4-4-1-1, si on reprend un peu les choses. La problématique des joueurs de côté. Enfin, des joueuses, pardon, de côté, que ça soit Le Sommer ou Diani ou Cascarino à droite. Quand vous êtes dans un système avec deux lignes de quatre à plat, c'est-à-dire que à chaque fois que vous récupérez un ballon, je dirais pas forcément très haut, mais à chaque fois que vous récupérez un ballon, les joueuses de côté ont une distance énorme à parcourir. Quand vous jouez dans un 4-3-3, peut-être un peu plus classique, je dirais avec trois vrais milieux de terrain et pas un numéro 10, mais trois vrais milieux de terrain, ça permet à vos joueuses de côté d'évoluer un petit peu plus haut et surtout d'avoir un marquage, comme on dit, un replacement un petit peu plus axial. Donc elles ont moins de distance à faire, donc elles peuvent faire partir, elles peuvent faire parler leur vitesse. La, moi, la, la problématique que j'ai avec le Sommer, c'est qu'à chaque fois qu'elle touche un ballon, elle est à 45 mètres du but adverse.
Voilà.
Et que quand vous êtes en fin de saison, quand vous avez des chaleurs, c'est pour moi la responsabilité du sélectionneur ou de la sélectionneuse de la mettre plus haute sur le terrain. Parce que c'est la joueuse qui doit vous faire gagner la Coupe du Monde. Nous, on a Mbappé qui nous a fait gagner la Coupe du Monde chez les garçons. Chez les filles, c'est le Sommer qui doit faire gagner cette Coupe du Monde. Et de la mettre à chaque fois, à chaque récupération de balle, à 45 mètres, 50 mètres du but adverse, je trouve que c'est pour moi une erreur. Une erreur, parce que, et pour l'instant, ça, ça me conforte dans mon, dans, dans ce que je pense, parce que, offensivement, on l'a dit, il y a eu peut-être 6 occasions franches en 4 matchs, si on enlève les coups de pied arrêtés. Oui.
Est-ce que c'est pas un problème de bloc équipe aussi qui est un peu trop bas?
Le, non, mais le bloc équipe, mais tu peux pas aujourd'hui, avec tes, avec, notamment avec la petite Torrent à droite, enfin, tu peux pas jouer Torrent. Oui, mon accent américain.
Il est pour les États-Unis ce soir.
Si, la petite Torrent, si tu la mets plus haut dans ce bloc-là, ouais. Elle va être en difficulté parce qu'elle a pas beaucoup de puissance. Elle va faire des petits pas.
Mbok peut couper derrière puisqu'elle est extraordinaire.
Oui, mais ça c'est du domaine de elle peut éventuellement pour placer un bloc plus haut, il faut que tu sois en capacité d'avoir des défenseurs ta ligne de 4 qui soit assez rapide. Et là c'est pas le cas aujourd'hui.
Laure, pour conclure sur le positionnement de Le Sommer notamment.
Non mais je rejoins Willy dans ce qu'il dit. La France en fait, elle souffre quand elle a le ballon de manque de présence dans la surface de réparation. Et c'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets dans les centres, mais parfois, ce n'est pas forcément aussi de la faute de la centreuse.
C'est parce qu'il
n'y a pas assez de solutions dans cette surface de réparation. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, et les Américaines, qui, elles, évoluent en 4-3-3, bien déterminées, ont cette présence dans cette surface de réparation. Et justement, moi, mon inquiétude, c'est que j'ai peur qu'à un moment donné, on prenne l'eau au milieu de terrain. Donc, on verra un petit peu ce début du match et comment Corinne Diacre a décidé un petit peu de défendre par rapport à ces Américaines. Je pensais que peut-être elle repasserait plutôt à un 4-3-3 assez classique pour densifier son milieu de terrain et mettre des joueuses qui prenaient.
Ou alors tu peux aller sur un 4-4-2, mais tu fais le choix, par exemple, milieu gauche, tu fais comme Deschamps a fait. Tu mets un milieu de terrain avec un profil un peu plus défensif, plus traditionnel, et tu mets le Sommer plus haut.
Tu peux mettre Majerie en milieu de terrain.
Je pensais que moi, être en train de mettre Majerie un peu plus haut.
Parce que Majerie, c'est pas un arrière-gauche, pour moi.
Enfin, elle
jouait plus haut, effectivement.
Elle aimerait bien jouer plus haut.
18h25 sur RMC. On vous rappelle ce rendez-vous France-États-Unis. C'est tout à l'heure 21h en direct, en intégralité, dans l'intégrale Coupe du Monde. Merci Laure. On te retrouve tout à l'heure, juste après 19h. On retournera évidemment au Parc des Princes avec Anthony Reich et Jeannot Rességuier d'ici 20h. Il y avait un match de la Coupe d'Afrique des Nations cette fin d'après-midi. Il vient de se terminer. C'était Tunisie-Mali, Arthur Perrault.
Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir
salut
à tous.
Salut Arthur.
Et la nouvelle contre-performance des Tunisiens avec ce match nul concédé un but partout face au Mali en cette fin d'après-midi, et en plus ils étaient menés les Tunisiens avec un but de Mouez Hassen contre Sankan après un corner rentrant tiré par Djadié Samasekou, et puis la réaction 10 minutes plus tard à la 70e minute de jeu de Wabi Kazri sur un coup franc dévié par le mur malien. Un but partout donc entre la Tunisie et le Mali. L'autre très grand rendez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sera à 19h avec le choc dans le groupe D entre le Maroc et la Côte d'Ivoire,
qu'on suivra en direct sur RMC. Merci Arthur, merci à Philippe d'avoir été avec nous au 32-16. On le remercie, on lui dit évidemment à très bientôt sur RMC, 18h26 dans un instant. Ici c'est Willy revient pour conclure le Duga Tour des clubs. On parle du PSG avec une question: Leonardo va-t-il régler tous les problèmes? À tout de suite.
C'est Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 18h31 de retour dans Ici c'est Willy sur RMC avec Franck Leboeuf, François Pinet et Louis Amar. Louis, oui. C'est l'heure du Duga Tour.
C'est l'heure du Duga Tour dans quelques instants. Absolument, on conclut le Duga Tour des clubs
avec l'énormissime PSG.
Absolument. Et le grand Leonardo va-t-il régler tous les problèmes? Ça, c'est dans un instant. Et puis tout à l'heure, à 18h45, le journal moyen. Avec
salut
Adrien Aigouin.
Salut Louis. Alors attention, Jérôme Rotten sera avec nous dans le journal moyen puisqu'il rend hommage à un champion du monde 98 qui s'appelle Franck Leboeuf. À ne pas louper. 18h45.
Donc je pourrais le frapper après.
Ah, tu pourras faire ce que tu veux Jérôme.
Tu peux faire ça dans
hommage, je suis pas sûr.
Et puis on va faire attention à notre santé dans le journal moyen. C'est important d'avoir une bonne santé.
Voilà,
on va prendre quelques précautions. On va rappeler les règles de base, les amis.
Journal moyen tout à l'heure à 18h45. Merci Adrien. Tout de suite, la suite et la fin du Duga Tour des clubs.
RMC, le Duga Tour des clubs. Aujourd'hui, Le PSG.
C'est un grand honneur pour moi d'accueillir un homme aussi prestigieux dans ma modeste entreprise.
Et j'ai toujours pensé qu'un jour je pouvais revenir.
Puisque nous sommes d'accord sur la qualité, on va pas tourner autour du pont.
La Juventus plutôt que le PSG pour Matthijs de Ligt.
Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ?
Pas bien, et bon, on n'est pas content.
Ne touche pas à notre projet.
Le club doit rester le plus fort.
C'est une institution à respecter. C'est elle qui va guider un projet.
La France, il a acheté moi. La France, il a acheté moi.
Le PSG qui va très probablement officialiser lundi, deux signatures, celle d'Ander Herrera, ça n'est pas une surprise, il arrive libre de Manchester United, et celle de Pablo Sarabia, l'attaquant polyvalent du FC Séville, il peut jouer dans l'axe sur un côté, qui va s'engager contre 19 millions d'euros. Avant qu'on parle de Leonardo, déjà, est-ce que Willy, Franck, ça ressemble à des bonnes idées pour vous ?
On passe.
Il y a, parfois, okay. il y a des vraies fausses idées, puis parfois, il y a des fausses bonnes idées.
Alors ça, c'est quoi ?
Une idée de merde.
Et je dirais que Herrera joue dans un club, Manchester United, qui ne fait plus partie du top 4 maintenant depuis plusieurs années. C'était un joueur qui était à peine titulaire dans ce club-là. Qu'est-ce qu'il peut apporter au PSG ? Il va apporter sur les matchs quand le PSG ira jouer à Brest.
Je rappelle oui, quand même qu'on cherche des milieux de terrain au PSG depuis un moment. Hein.
Gratuit,
un peu accrocheur, d'expérience.
Manu Petit, Patrick Virac sont libres aussi. Hein,
Même Franck Ribéry peut jouer
devant Herrera. Il a joué au Manchester l'an dernier.
C'est beaucoup plus cher.
Il a joué la Ligue des Champions aussi.
Mais
les gars, on parle du Paris Saint-Germain.
Mais Paredes aussi avait joué la Ligue des Champions.
On parle du Paris Saint-Germain.
Et quand on l'a dit avec Franck, tu te rappelles là, dans Footissime, la première fois qu'on a su que Paredes devait venir.
On a rigolé.
Ah bah oui, on a rigolé. Puis aujourd'hui, c'est tout le monde rigole.
Et là, on a continué à rire. On nous a traité de mecs qui comprenaient rien au foot.
Donc Herrera, on passe. Un mot sur Sarabia, peut-être.
Sarabia, c'est un profil différent. Je pense que ça va épauler Mbappé quand Mbappé jouera dans l'axe. Par exemple, il pourra jouer à droite. Ça sera un joueur de complément, mais qui reste sur une superbe saison avec Séville. Après,
c'est une bonne
23 buts, 17 passes décisives.
Ouais,
pour 18 millions d'euros.
Ouais. C'est une belle pioche. Oui. C'était le prix de sa clause.
Voilà. Absolument.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est donc a priori pour lundi, Ander Herrera et Pablo Sarabia. Plus globalement, Willy, Franck, est-ce que Leonardo va régler tous les problèmes au PSG, Willy ?
Peggy, c'est pas, il va régler certains problèmes, l'espère.
Est-ce qu'il peut ?
Il doit essayer, puis de toute façon, il doit régler des problèmes. Parce que s'il règle pas les problèmes, ça veut dire qu'il sert à rien. S'il sert à rien, ça veut dire qu'il doit repartir. Donc forcément, il va être obligé de s'y atteler. Moi, je veux quand même revenir sur ce recrutement, parce qu'on vous dit Herrera, Manchester, Champions League, oui, mais Herrera, on sait que sa qualité première, elle ne réside pas dans sa technique. Quand vous allez avoir...
Ancien numéro 10, hein, quand il était à Bilbao. Ça ne veut pas dire qu'il était une grande technique.
Il a joué numéro 10. On va oublier cette période-là. Alors, et puis, regardez simplement ses matchs avec Manchester.
Il fait finale d'Europa League quand même avec Bilbao.
Je dis que la qualité première d'Herrera ne se situe pas dans son potentiel technique. Vous m'écoutez. C'est un joueur qui est agressif, qui va mettre des tacs, qui va se battre pour les autres. C'est très bien. Mais quand vous allez avoir des joueurs comme Verratti à côté... Mbappé, Neymar s'il reste, et que un ballon sur deux que le mec va toucher va le perdre, vous allez voir ce que ça va créer sur les autres joueurs. Mais François me regarde pas comme ça. Sur un terrain de foot, c'est comme ça. À ce niveau-là, c'est comme ça. Quand dans des équipes, t'as celui à chaque fois que tu files le ballon, une fois sur deux, il le perd. Et ben, ce mec-là, il peut te foutre un milieu de terrain ou un match en l'air. Parce que les autres, ils en auront marre à un moment donné d'aller sur des transitions défensives alors que le mec avait une passe simple à faire.
D'accord. Mais pour retourner à Leonardo, moi, je pense que la principale qualité de Leonardo, c'est déjà qu'il connaît la maison, il sait comment ça fonctionne. Il a vraiment, beaucoup d'acquaintances qui peuvent amener certains joueurs. Et surtout, je pense, et en tout cas je le souhaite, c'est qu'il va enfin amener une discipline et une hiérarchie qui va être respectée. C'est ça pour moi le critère premier à retrouver au Paris Saint-Germain par rapport à ce qu'on a vu depuis l'arrivée des Qataris, c'est-à-dire... un petit peu, je fais ce que je veux parce que je suis joueur de foot et que si je suis pas content, je vais parler à Nasser. Donc là, ça, il faut que ça change et j'espère que Leonardo, je suis sûr que Leonardo va le faire.
Oui, je pense qu'il peut ramener un peu de discipline. Je pense, j'en suis pas persuadé, mais je pense. Après,
il a fait la première.
Moi, je dis juste, pauvre Thomas Tuchel.
Parce qu'il va plus, il va
parce
plus
que avant, au-dessus de Thomas Tuchel, parce que les joueurs, de toute façon, ils n'allaient pas voir Antero Henrique, ils s'en foutaient. Mmh. Ils allaient voir directement Nasser. Mais Nasser, comme il est souvent aussi au Qatar, parfois il n'y avait personne. Mais là, ils vont avoir un mec qui va être là en plus tous les jours. Alors déjà qu'il passait à chaque fois au-dessus de Tuchel, oui, si le pauvre, mec... il va encore en voir passer.
Oui, mais si
plus.
Ce mec serre la vis, Willy, peut-être qu'au contraire, l'autorité de Tuchel va s'en trouver renforcée.
Si Leonardo dit...
Non, mais
dit
serre la vis. Si
dans les grands clubs, c'est comme ça.
S'il serre la vis dans l'intérêt... De du Tourelle. Groupe et dans l'intérêt de l'entraîneur, ça se passera très bien.
Voilà.
Mais dans quel intérêt le ferait-il autrement ?
Comment ça se passe au Bayern ? Comment ça se passe au Bayern ? Il y a un directeur sportif, un manager général ?
Ouais, enfin un directeur sportif qui, enfin, il prend pas forcément de décision. C'est au-dessus que ça se prend.
Voilà. Ouais, mais les joueurs sont obligés. Les joueurs sont obligés d'aller voir leur entraîneur s'ils ont un problème.
Non, mais de toute façon, au Bayern, si t'as un problème et que tu vas voir ton dirigeant, sans passer par l'entraîneur, c'est une problématique.
Ben voilà. C'est ça que devra régler Leonardo, c'est de dire quand t'as joueur, t'as pas la porte, j'ai besoin de te parler. Si c'est quelque chose qui a à voir avec le terrain,
avec le temps de jeu,
tu ressors, tu vas voir ton entraîneur, je n'ai rien à dire sur ça. C'est ça le discours de Leonardo et des autres dirigeants.
Il y a quand même des indices pour répondre à la question sur Leonardo. Là, déjà, quand tu vois qu'ils n'ont pas prolongé Dani Alves, pas prolongé Buffon, les derniers indices, c'est avec De Ligt où ils ont choisi de ne pas le faire parce que De Ligt avait déjà des clauses pour penser à l'avenir et pas forcément au Paris Saint-Germain.
Vous allez me dire qu'ils
ont... Ça veut dire que depuis qu'il est arrivé, voilà, ça ce sont des faits. Et ce sont des faits qui prouvent que le PSG va peut-être.
Je ne pense pas que ça soit le PSG qui a refusé de faire De Ligt à cause de cette clause.
C'est les informations.
Nos infos, c'est que De Ligt voulait inclure une clause libératoire avec le PSG.
Et qu'il a obtenu à la
Juve avant même d'arriver. Tu n'arrives pas.
Bravo. Moi, je dis bravo.
Ce sont nos infos.
Quand t'es un grand club, tu peux pas accepter une clause libératoire. C'est-à-dire que t'es un club, tu redeviens un
intermédiaire. T'as raison. Donc la Juve, c'est un petit club.
Non, mais la Juve a consenti à faire cet effort-là, et peut-être que le PSG a décidé d'adopter une autre posture. Peut-être
non,
que ça n'est qu'une posture.
À un moment donné, il faut pas tout mélanger. Quand on parle de discipline, quand on parle d'institution, il faut pas tout mélanger dans ces mots-là. À un moment donné, tu parles d'un joueur qui s'appelle De Ligt. Tu parles pas d'un joueur qui a déjà fait 18 clubs en 10 ans. Tu parles d'un joueur qui est jeune, tu parles d'un joueur qui éventuellement.
Mais autant être fort.
D'un joueur qui, si éventuellement ça se passe bien, il peut te garantir une défense centrale pendant 10 ans.
Oui.
Oui,
est-ce que à ce moment-là,
il pense déjà à l'institution bien.
Pardon ?
Il se place au-dessus de l'institution quand il arrive, s'il veut arriver au PSG ou à la Juve. Moi, je suis pas d'accord avec la Juve. Quand un garçon qui a une vingtaine d'années, qui a fait une finale, qui a fait une demi-finale de Champions League, sinon, on sait pas qui il est. Je suis désolé, c'est un grand joueur, ça va être un très grand joueur. Mais que tu consentes des choses à un joueur qui a 20 ans, ça veut dire que tu acceptes que ce mec considère que ton club n'est pas une finalité et donc un Graal. Et moi, je trouve plutôt intéressant que le Paris Saint-Germain dise « Écoute-moi, mon pote, nous, on trouve que le Paris Saint-Germain est un grand club. Si tu penses que c'est qu'un club intermédiaire, va signer ailleurs. » C'est pas grave. Nous, on va avoir des joueurs qui ont envie de rester. Bravo le PSG. Un peu de fermeté, c'est pas de mal.
Et est-ce que ça, pour conclure, c'est la première marque de ce qu'on pourrait appeler un effet Leonardo ?
Moi, c'est un effet d'annonce. Voilà, c'est un effet d'annonce.
Je vais espérer que oui.
L'institution ne fonctionne
pas comme
ça.
En gros, tu dis c'est parce qu'ils ont pas réussi à le faire qu'ils trouvent cette excuse, quoi.
On le saura plus tard, ça.
On le saura certainement plus tard. Mais à un moment donné, quand t'as un joueur que le Bayern lui a fait une offre, il a décliné. Que City lui a fait une offre, il a décliné. Le Barça,
c'est pas qu'il a décliné, c'est que le Barça, visiblement.
Après, il a un agent dont on connaît la gourmandise aussi.
Mais même, tous les clubs le voulaient, ce joueur-là. Et simplement parce qu'il veut une clause à 150 millions alors que tu vas l'acheter 80, donc c'est-à-dire que tu pourras le revendre éventuellement que deux fois ce que tu l'as acheté.
Tu pourras pas le revendre, tu pourras te le faire piquer sans rien pouvoir dire.
Avec le double de ce que tu l'as acheté.
Oui, mais t'es ridicule. T'achètes De Ligt aujourd'hui et tu te le fais piquer
Donc le Barça, il est ridicule.
Bah non, puisque le Barça a refusé visiblement.
Ah bah si, le Barça s'est fait piquer Neymar par le PSG.
Ridicules, le Barça. 3 ans après.
Ils sont ridicules ce Barça.
Ils ont peut-être pas refait la même erreur. Avec De Ligt.
Et les supporters du Barça se sont trouvés ridicules cet été-là.
Le truc, c'est qu'encore une fois, je comprends ce que tu veux dire, et que le côté financier est intéressant, et que si tu as fait 10 ans avec le PSG, tu as peut-être le droit de partir, mais on verra à ce moment-là. Mais que tu l'imposes d'entrée de jeu, c'est ça la problématique. Alors que pour l'instant, tu t'aperçois que d'autres clubs te refusent pour la même raison, tu as peut-être raison de le faire, c'est tout. Après, la Juve, ils font ce qu'ils veulent.
Sur ce que je veux terminer, c'est je pense qu'il y a des choses où tu dois être ferme. Par exemple, que des joueurs incluent 5 ou 10 000 balles par mois pour de la sécurité.
Oui,
ça, par contre, tu dois leur dire non. Mais comme tu leur dis oui, après tu vas essayer de me justifier que oh bah lui il voulait une clause à 150 millions, donc juste le double de ce qu'on t'achète, bah là il faut dire non.
Tu sais,
ouais, faut arrêter l'hypocrisie.
Il faut être ferme de partout.
Bravo. Je crois qu'on va y aller là-dessus. Hein. Allez, 18h43, ici c'est Willy, revient tout de suite avec le journal moyen d'Adrien et Compain.
Willy Sagnol. Ici c'est Willy.
Allez, 18h47, de retour dans Ici c'est Willy sur RMC avec Franck Leboeuf, François Pinet et Louis Amar. Louis, après 19h, on va parler des espoirs.
Absolument.
Et parce que c'était simplement une catastrophe.
Les espoirs balayés par l'Espagne hier en demi-finale de l'Euro, mais qualifiés pour les JO de Tokyo. Réussite ou fiasco, on en parle après 19h. À 19h25, la CAN et l'Algérie dans le carré VIP et le cas Anthony Lopez dans le Focus Ligue 1. Puis on terminera comme chaque jour avec le buzzer Pinet. Mais d'abord le journal moyen d'Adrien Rigouin.
Et à la une du journal moyen d'ici c'est Willy aujourd'hui sur RMC. Jérôme Roten sort avec nous. Franck, c'est émouvant, la Dream Team qui se fait des compliments, etc. Il t'a rendu hommage hier. On va faire attention à notre santé dans le journal moyen. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Et puis vous allez vous transformer en jury de The Voice. Voilà. Vous allez vous retourner ou pas.
C'était notre rêve, les mélomanes. C'est notre rêve.
Ah bah je sais que Franck, tu en rêves. Willy aussi, c'est un rêve
de faire The Voice.
Ouais. Chanteur ou jury?
Ni l'un ni l'autre, parce que je chante comme une brêle et faut avoir quand même quelques connaissances.
Ouais. Dis-toi que depuis que t'as fait Koh-Lanta, t'es mon idole, Franck.
Ah ouais?
Ah bah attends, fais Koh-Lanta, bon, c'est vrai.
Je vais faire The Voice, je vais virer son prato, je l'aime bien, je vais lui dire.
Il a tout perdu ce jour-là. Le jour où il a fait Koh-Lanta, il a tout perdu.
Vous écoutez RMC, c'est le 39e.
J'ai perdu les cheveux, donc j'ai rien perdu.
39e journal moyen de l'histoire d'ici, c'est Willy.
En direct de la rédaction de RMC Sport, le journal moyen d'ici, c'est Willy. Adrien
Aigouin. Jérôme Roten donc commenté ce catastrophique Espagne-France sur RMC, demi-finale de l'Euro Espoir. 21h18, tout se passe bien, nickel. Jérôme se lance dans l'analyse des 20 premières minutes des Bleus. Et c'est très intéressant, Jérôme.
Quant à autant de qualités techniques, Guendouzi sur le coup ou Ikoné, oui, c'est vrai qu'on est en droit d'attendre mieux et pas qu'une équipe qui subit, qui regarde l'Espagne jouer et espérer faire des différences sur des oh, pardon, la qualité oh là là, je fais une Franck Leboeuf. Je cherchais.
C'est excellent, c'est comment dire, c'est lucide.
C'est lucide, il a fait une Franck Leboeuf, effectivement. Non mais sérieux.
C'est bien, c'est que Gilbert le laisse.
Mais
ne peux pas laisser passer ça.
Mais il a raison en plus, parce que c'est vrai qu'un jour j'ai fait une boulette, mais de 30 secondes. Oui,
t'as fait une rotaine.
Non, très rotaine alors, mais c'est vrai qu'elle ressort souvent en jingle.
Ouais, donc je me suis dit, c'est pas la peine de le
ressortir. Ça prouve qu'il m'écoute.
Alors, Roten est lucide jusqu'au bout, écoutez.
Je vais avoir le droit à mon jingle. À ton journal moyen.
Merde.
Il est dégoûté.
La lucidité du mec sur le moment, quoi, c'est magnifique. Non.
Alors, je me dis, bon, finalement, parce qu'il y a des gens qui découvrent, ici c'est Willy et RMC, qui n'ont jamais entendu ce que c'est une Franck Leboeuf. Donc, là, on a finalement retrouvé une Franck Leboeuf. C'est magnifique. Le truc ultime.
Mais j'en ai fait qu'une, en plus, en même temps.
C'est du 20 sur 20, Willy, c'est Franck Leboeuf.
C'est magnifique, écoute ça.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin, en tout cas, les 3 dans le groupe, trois joueurs importants soient partis.
Voilà, dans le groupe, j'adore le groupe, le mot le groupe.
En fait, je n'écoutais pas du tout la question. Donc, je savais même pas de quoi on parlait, si tu veux. Donc, j'ai dit, on va faire passer le temps.
Tu vas mis des mots les uns après les
autres. Mais je pensais pas que ça allait rester et que peut-être
c'est mythique.
Tu seras. Quand tu passes, après tu passes de vie à trépas, il te reste ça.
Voilà,
tu
vois, et on dit, j'ai fait une Franck Leboeuf.
Voilà.
Magnifique. Sans transition, sans aucune transition, direction Turin. Le nouveau coach de la Juve, c'est un phénomène, il s'appelle Mauricio Sarri. Il a gagné la Ligue Europa avec Chelsea cette saison, il a 60 ans et Mauricio Sarri n'est pas très sérieux. C'est la page de santé publique du journal moyen. Si les enfants, si vous nous écoutez, c'est important. Sarri est un très très gros fumeur de cigarettes. Il est totalement addict au tabac. Alors j'avais pas vu ça à Chelsea. Il a réclamé à sa direction la construction d'un fumoir parce que c'est interdit de fumer en Angleterre dans les stades, même dans les couloirs.
Oui.
Ce projet n'a jamais vu le jour. Donc ils sont vraiment à cheval les Britanniques sur ce sujet.
C'est pour ça qu'il avait l'air si tendu sur son banc.
Et il s'est confié au quotidien italien qui s'appelle La Nueva Riviera sur son addiction. Une idée du nombre de cigarettes qu'il fume par jour. Il a tout dit là.
Je pense que c'est. Il a deux paquets, je pense.
Deux paquets.
Ça fait 40.
40 cigarettes, deux paquets, c'est beaucoup. Moi, je suis pas fumeur. Toi, tu es fumeur, Louis ?
Oui, non, 3. Oui, mais moi, j'ai eu quelqu'un qui a fumé 4.
Alors,
4 paquets.
Sarri déclare, comme ça, froidement, je fume
60 cigarettes par jour, c'est l'équivalent de 3 paquets. Alors il ajoute, c'est peut-être un peu trop, oui, effectivement.
Là, c'est n'importe
quoi. Et son addiction est un peu spéciale. Il dit, je ne ressens absolument pas le besoin de fumer pendant les matchs. C'est-à-dire que pas de manque de tabac pendant les matchs, pendant que c'est.
Non, parce qu'il a la tête occupée.
Le feu. Après, il dit, mais par contre, après. C'est vraiment nécessaire. Quelques instants après. Enfin, alors, c'est quand même dingue.
En revanche, pendant les matchs, je sais pas si vous vous souvenez, mais cette saison à Chelsea, il avait tout le temps un petit filtre de cigarette, donc juste une espèce de mégot.
Pour avoir l'objet
avec ses lèvres de temps en temps pendant les matchs. Donc il a quand même envie de fumer pendant les matchs aussi.
Alors, pour lui dire.
Ça, il a quel âge?
60 ans, tout pile.
Bah, c'est bientôt fini.
Il peut continuer.
On lui souhaite pas ça.
S'il est pas déjà mort avec 3 paquets, il peut continuer.
Les enfants, il est grand d'ailleurs, c'est pas bon.
Ah oui,
c'est pas bon.
Non, moi j'ai été un fumeur. Ça fait bientôt un an et demi que j'ai arrêté.
Bravo, Franck.
Bravo, Franck.
Je m'appelle Franck.
Non, mais.
Tu fumais pendant ta carrière, Franck ?
Oui, j'ai fumé pendant ma carrière, ouais, j'avoue, franchement.
Régulièrement ?
J'ai arrêté. Ah oui, je fumais une dizaine de cigarettes par mois.
Et Willy, ça rit alors ?
Et Willy, tu fumais toi aussi pendant ta carrière ?
C'est arrivé, bien sûr. Comme tout le monde.
Un petit peu.
Comme tout le monde.
Avant de museler Ronaldo, t'avais fumé ?
Footballeur, ne fume pas.
Avant de museler Ronaldo, t'avais fumé ?
Mais
des cigarettes, j'entends.
Mais quand j'ai jamais fumé pendant ta carrière, je dis, attends, j'étais champion du monde et champion d'Europe en fumant. Imagine, je n'avais pas fumé en plus.
Ballon d'or, ballon d'or.
Mince.
Sans transition. 21h ce soir au Parc des Princes, c'est la Coupe du Monde.
La tête de Wendy Rona.
Non. Alors, c'est pas le bon jingle. Je m'adresse à Julien en régie parce qu'on a un nouveau jingle pour la Coupe du Monde. Il y a un problème technique qui est beaucoup mieux, le nouveau jingle.
Dialignation de l'animation, vous appliquez.
Voilà. C'est le nouveau jingle de Jeannot pour la Coupe du Monde.
On ne peut pas le remettre. On ne peut pas le remettre parce que j'ai pas entendu.
Tu veux le remettre?
J'ai rien compris.
J'ai rien compris non plus.
Ah bah, je crois que c'est normal. Hein. Jeannot, ouais. Nouveau jingle, on remet. C'est parti, Jeannot.
Il arrive.
Allez, Jeannot.
Il arrive.
Allez, bon, Jeannot.
Il vient de loin.
Il arrive en courant. Jeannot,
il
arrive.
Oui. Il était au Havre.
Dialignation de l'animation, vous appliquez.
Ouais, mais vas-y,
il a fait une Franck Leboeuf là.
Alors,
c'est bon,
le quart de finale ce soir, 21h, France-États-Unis. J'ai lu ça dans le journal L'Équipe ce matin. Il y a un an, les Bleus de Deschamps avaient une chanson, un véritable carton. Bon,
ah oui.
On n'en peut plus de l'entendre, mais bon, ça a marché.
D'accord. VG Dream.
Ça a marché, VG Dream, ramener la coupe à la maison. Et donc, les filles n'ont pas de chanson, mais deux titres sont candidats pour devenir, pourquoi pas, l'hymne des Bleus. C'est un peu particulier, d'accord. Donc, vous allez choisir. Choix numéro 1, c'est la rappeuse qui s'appelle Juste Chani. Le titre Sélection Féminine, musique.
Sélection Féminine.
Bon. C'est pas un truc que moi j'écoute, mais bon, pourquoi pas, voilà. Vous allez devoir vous retourner hein, dans le fauteuil de The Voice, vous êtes jury.
Pour l'instant.
Choix numéro 2, chanteuse de Bondy qui s'appelle Chérine, en duo avec le rappeur qui s'appelle L'Artiste. L'Artiste en un seul mot. Hein. Titre de la musique, titre de la chanson, original. On est ensemble.
C'est pas mal.
Ah oui.
Ouais, bon. Quelque chose.
Donc ça donne ça l'intro.
Ouais.
Elle part avec un peu d'avance peut-être parce que Amandine Henry a déjà partagé cette chanson sur les réseaux sociaux.
Et elle vient de Bondy.
La ville de Kylian Mbappé.
Ouais, ouais. Puis ça a l'air d'être un peu plus.
Ouais.
Un peu plus entraînant.
Voilà, c'est ça.
Ouais, un peu plus festif, ouais.
On écoute l'arrivée de l'artiste. Oui. L'artiste qui arrive. On est ensemble. Ça me rappelle quelque chose quand même.
Aussi, tiens. Non, ça donne envie de bouger, ça donne envie de.
Le choix de Chérine alors.
Ouais, Chérine.
Allez, deuxième. Bon. Moi je l'enregistre bien avec Willy là, comme ça, là, tu vois, collé serré là.
Mais tu danses bien, Franck.
Ah, bah, j'ai une femme danseuse aussi.
Ah oui,
c'est moi, Franck, pas avec moi.
Bon, le choix est fait, c'est bon, c'est Chérine. On est ensemble.
Allez, on
c'est
prend.
Fait.
Numéro 2. Je me retourne
c'est
sur
bon,
numéro 2.
T'es retourné, c'est bon.
J'espère qu'elle sera dans mon équipe.
Merci les gars. Prochain journal moyen, lundi. Lundi, Super Moscato Show, 16h45 et 18h45 dans. Ici, c'est.
Dans Team du gars. Jérôme Rotten.
Avec Jérôme
qui t'attend de pied ferme après ce
magnifique.
Que tu viens de faire.
Merci beaucoup Adrien. Bon week-end, 18h55. Dans un instant la suite d'ici c'est Willy. Juste après les infos de 19h, on se demande si les espoirs ont réussi leur euro après une élimination quand même piteuse. Hein. Hier 4-1 en demi-finale face à l'Espagne, à tout de suite.
RMC, 18h20, ici c'est Willy.